Pour un temps limité, Saint-Hubert vous offre 5 grands classiques à 11$. Le car-cuisse, le hot chicken, les filets de poulet, la poutine Saint-Hubert et le club sandwich. Ça, c'est toute une attaque à 5. Saint-Hubert vous offre aussi Marc Legault. Voici les 3 étoiles de Marc Legault.
Désolé, on a pris un petit peu de retard. On va rattraper ça au cours de la prochaine demi-heure, je vous le promets. Marc, j'adore les 3 sujets de ce matin. Première étoile, les dopés qui vont entrer au temple de la renommée du baseball bientôt.
Je pense que ça s'en vient, Michel. On a vu les résultats hier, entre autres, Barry Bonds, Roger Clemens, qui ont augmenté leur pourcentage, qui sont tout près de la barre des 60 %. Ça prend 75 % des votes pour entrer au temple de la renommée. Et à chaque année, souviens-toi, leur première année d'éligibilité, il y avait pratiquement pas de vote, hein, évidemment. Et puis là, plus ça va, plus ils ont des votes. Et ce qui m'a frappé dans ce vote-là, moi, hier, du côté du temple de la renommée du baseball, c'est de voir qu'il y a maintenant 2 générations de chroniqueurs journalistes qui votent, et je t'explique pourquoi. C'est supposé être secret sur ce vote-là, mais on a créé un site qui est indépendant du temple de la renommée, mais un site sur lequel les journalistes qui veulent bien peuvent aller mettre leur vote. Donc, leur vote devienne public. Puis moi, je trouve ça correct. Je trouve que ça crée de l'intérêt, ça génère des discussions, puis il n'y a rien de mauvais là-dedans. Et hier, là, on a vu, il y avait plus de la moitié, il y avait 50-quelques % qui ont décidé d'aller public avec leur vote. Ça, on sent que c'est la nouvelle vague de chroniqueurs, la nouvelle vague de journalistes qui, eux, utilisent les réseaux sociaux et ainsi de suite et qui veulent générer des discussions avec tout ça. Et à ce moment-là, lorsqu'on a mis ces votes-là, Barry Bonds et Roger Clemens, entre autres, étaient tout près de 70 %. Et puis Larry Walker est à 65 %. Et selon moi, la deuxième génération, celle qui est peut-être un peu plus vieille, un peu plus grincheuse, plus traditionnelle, plus toutes sortes de choses, on a vu le vote baisser, autant pour Larry Walker, qui normalement, avec les statistiques avancées d'aujourd'hui du baseball majeur, serait un choix automatique pour le temple de la renommée. Lui, son pourcentage a baissé. Même chose pour Clemens et Bonds. Donc, c'est intéressant. Et ça va changer au cours des prochaines années, évidemment, parce que ça va évoluer, parce qu'on va discuter de tout ça. Mais quelle drôle de façon. Moi, ça me fait toujours sourire, Michel. Lorsqu'on vote pour... On a 10 ans pour être éligible là-dessus, mais si t'es un chroniqueur, me semble, là, t'as 1 an pour savoir que l'année prochaine, c'est tel joueur qui se présente. Tu peux te faire une idée. Ça me fascine de voir que ça peut te prendre 10 ans pour décider si quelqu'un mérite sa place au temple de la renommée, oui ou non. Mais il semble que c'est oui, elle le mérite, non, elle ne le mérite pas pour telle et telle raison. Mais il faut croire que, évidemment, les mentalités changent et évoluent. Mais ça pour dire que on n'est pas loin du jour où est-ce qu'il y a quelqu'un qui aura été vraiment impliqué dans un scandale de doping qui sera intronisé au temple de la renommée du baseball. Puis honnêtement, ça me fait rire parce que c'est en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis. Des maniaques de football de la NFL, Michel, puis on sait cette ligue-là, à chaque semaine, il y a des joueurs qui sont suspendus pour dopage. Écoute, c'est un entrefilet dans les médias, c'est une phrase ici et là, c'est rendu normal, c'est dans la culture, les gens font même pas un plat, mais au baseball, on est tellement loin de ça, c'est 2 poids 2 mesures vraiment.
T'as tellement raison, Marc, c'est tellement plus important le doping dans le monde du football, étant donné qu'il y a des contacts physiques, la force qui est impliquée, tandis qu'au baseball, c'est plus de l'agilité. Oui, c'est sûr qu'il y a de la puissance au bâton, mais il faut toujours bien que tu frappes la petite boulette pour venir à bout d'y toucher. Il y a tout ce dilemme-là, puis t'as tellement raison quant aux procédures du temple de la renommée, c'est beaucoup remis en question, c'est long pour rien, c'est complexe également. En tout cas, hey, ta deuxième étoile, t'hésites à parler des sénateurs, pourquoi?
J'ai un gros dilemme et c'est ce qui me fait peur, Michel, parce qu'hier, les sénateurs ont joué face aux Coyotes de l'Arizona dans l'indifférence totale de la population dans la région. Oh oui, t'as quelques peu réduits, là, des vrais fans des sénateurs qui ont suivi ça pour voir l'évolution de certains joueurs, mais je te dirais qu'en général, là, c'était dans l'indifférence total, avec raison, les sénateurs ne sont pas dans la course aux séries. Puis il n'y a même pas de course pour le premier choix, à la limite que tu peux souhaiter une défaite des sénateurs en disant qu'ils vont avoir un meilleur choix. Il n'y en a même pas cette année. Et c'est pour ça que ça me fait pas. Je me dis, est-ce que je parle des sénateurs? Est-ce que les gens sont vraiment intéressés? Est-ce qu'on en parle? Et ça, c'est rendu dangereux. C'est très, très dangereux lorsque tu performes dans l'indifférence totale d'une majorité de la population. Ce n'est pas un bon signe et avec raison, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais hier, devant, une fois l'annoncé, tout près de 12 000, j'ai parlé à des gens qui étaient là, il n'y avait pas 12 000, loin de là, on parlait de moins de 10 000 hier. Un mauvais match, un match plate. J'ai regardé ça, c'était vraiment une torture, Michel. C'était du mauvais hockey. et on pourra pas en avoir trop tôt de ça. Je sais que c'est pas une bonne équipe cette année, les Sénateurs sont en reconstruction, mais on va devoir donner un spectacle, on va devoir ramener une petite énergie parce que ça va être une fin de saison catastrophique qui sera néfaste pour l'organisation.
C'est triste, mais t'as tellement raison. Encore une fois, évidemment, moins de 10 000 personnes, c'est désolant. OK, troisième étoile, Pete Cherrelly, enfin.
Ouais. Écoute, tu viens de résumer le sujet. Enfin, exactement. Je pense que la population d'Edmonton au complet a poussé un soupir de soulagement. Quel désastre il a causé à cette formation-là. Michel, tu as le meilleur joueur de hockey au monde et t'es pas capable d'entourer, t'es pas capable de bâtir quelque chose de potable autour de ça. Et surtout quand on regarde ses gestes, t'échanges un gars qui a été élu joueur le plus utile dans la Ligue nationale de hockey pour un défenseur numéro 3 ou 4. Tu signes un mauvais contrat avec Milan Lucic. Le nombre de joueurs qui ont quitté Edmonton pour un retour qui était tout simplement insuffisant, il n'a jamais été capable de bâtir quelque chose. Et ce qui me surprend, c'est qu'on lui a laissé deux jours avant la fin de son règne, on lui a laissé signer un gardien de but qui avait 30 matchs d'expérience dans la Ligue nationale de hockey, qui a 30 ans, Michel, qui connaît une saison ordinaire, et on lui a donné 4,5 millions de dollars par saison. C'était sa dernière gaffe. Et on va s'en rappeler longtemps à Edmonton, mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour les partisans des Oilers.
Bonne journée, mon Marc. On se retrouve demain.
Salut, Michel.